20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Son nouvel album a des parfums d'Europe centrale. Piotr Andershevski a choisi de mettre à l'honneur des cycles de Janáček, Szymanowski et Bartók, des pages aux références populaires dont il souligne admirablement toute la rudesse comme toute la poésie. Piotr Andershevski qui sera en récital le 26 février à la Philharmonie de Paris et passera un petit moment avec nous ce soir. Avant cela, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Gilles Roman, le directeur artistique du Béjart Ballet Lausanne, vient de faire l'objet d'un licenciement pour des propos et attitudes qui s'inscrivent dans la notion de harcèlement sexuel, précise l'institution. Le danseur avait pris la direction du ballet en 2007 à la mort de Maurice Béjart. Philippe Co vous en dit plus dans son article publié sur le site et l'application de Radio Classique. Esa-Pekka Salonen poursuit son cycle avec l'Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris, avec encore 3 concerts, les 7 et 8 février tout d'abord, donc mercredi et jeudi, autour de la notion musicale d'image, chère au chef finlandais. Il dirigera ainsi la symphonie Matisse le peintre de Paul Hindemith et les Sea Pictures d'Edouard Elgar, avec en soliste la mezzo-soprano Nina Stemme. Et puis la semaine suivante, la semaine prochaine, le jeudi 15 février, un hommage à Kaya Saariaho, disparue l'année dernière. L'Orchestre de Paris s'associera pour l'occasion aux musiciens de l'ensemble intercontemporain pour interpréter 2 œuvres de la compositrice finlandaise, L'aile du songe et Note on Lights, ainsi que des pages de Sibelius et de Lindberg, un concert 100% finlandais donc, dont Esa-Pekka Salonen partagera la direction avec Alisa Neige Barrière, la fille de Kaya Saariaho. Après Witten on Skin de George Benjamin, Alexandre Bloch poursuit son exploration du répertoire d'aujourd'hui avec son Orchestre National de Lille. Alors en compagnie de la violoniste Patricia Kopaczynskaya, il donnera la création française d'une œuvre du compositeur italien Aureliano Cattaneo, une œuvre intitulée Not Alone We Fly. Également au programme de ce concert qui se tiendra mercredi au Nouveau Siècle de Lille et jeudi au Palais du Littoral de Grand Sainte, Don Juan de Richard Strauss et puis les danses symphoniques de West Side Story de Leonard Bernstein. Bernstein, un compositeur qu'Alexandre Bloch apprécie tout particulièrement, qu'il a régulièrement inscrit à ses programmes de concerts, comme lors de cette soirée de janvier 2022 captée par les micros de Radio Classique. We'll be right back. L'une des danses tirée de On the Town de Leonard Bernstein par l'Orchestre National de Lille et Alexandre Bloch en concert. C'était en janvier 2022, un concert dont nous avions pu profiter sur l'antenne de Radio Classique. Alors Alexandre Bloch dirigera cette fois-ci les danses symphoniques de West Side Story, mais aussi des pages de Richard Strauss et d'Aureliano Cattaneo, mercredi au Nouveau Siècle de Lille et jeudi à Grand-Synthe.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Ses œuvres puisent aux racines même de la musique, écrit Piotr Andershevsky dans la préface de son nouvel album, sorti chez Warner, un album mettant en regard trois cycles de brèves pièces signés Janáček, Szymanowski et Bartok. Piotr Andershevsky qui sera en récital le 26 février à la Philharmonie de Paris et qui est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ces pièces, les pièces qui constituent cet album, elles sont nourries d'influences populaires. Elles viennent de la terre. C'est important d'y penser. Quand on les joue, elles ont un côté brut, quelque part.
C'est pas tellement le fait d'y penser quand on joue, mais ça doit donner l'envie de les jouer, je dirais. Oui. Si on n'est pas sensible à ça, pourquoi les jouer? C'est justement ce côté brut, et souvent pas lissé, pas civilisé, pas poli.
Vous parlez justement d'un esprit de rébellion de ces pièces.
Oui, j'ai utilisé ce mot, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais ça m'est venu spontanément. Oui, rébellion dans le sens où justement elles vont puiser dans quelque chose de brut. Et il faut pas oublier, ces pièces ont été écrites pas toutes exactement au même moment. Szymanowski est un peu plus tardif. C'est un peu la fin des années 20, je pense. Mmh. Mais il ne faut pas oublier que surtout la fin 19e, c'était quand même en Europe. En tout cas, le monde de la musique classique était un monde assez bourgeois, je pense. C'était un monde de salon et en très très grande partie dominé par la musique allemande et la musique autrichienne. Et je crois que ces trois compositeurs, venant de ces trois pays différents, se rebellent contre ça. Peut-être surtout Janáček. C'est celui qui a le plus délibérément rompu avec cette culture allemande et autrichienne dans la musique.
Thank you. C'est avec le deuxième livre du cycle sur un sentier recouvert de Janáček que s'ouvre votre album, Piotr Andrzejewski. Un cycle, contrairement aux autres qui figurent au programme de cet album, que vous avez enregistré il y a plus de 10 ans, en 2013. Il était resté dans les tiroirs?
Oui, alors c'était un cycle que je venais d'apprendre, enfin que je venais de oui, que j'ai un peu joué. J'étais tellement amoureux de cette musique et je pensais que j'avais trouver vraiment une clé pour cette musique. J'ai appelé mes copains en Pologne, qui surtout à l'époque, on enregistrait beaucoup ensemble. La salle était libre, ils étaient libres. Je me suis dit, ah, je vais y aller, je vais juste le laisser, je vais le graver. On va voir ce qu'on va en faire après. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce n'est que jusqu'en 2022 où j'ai pris encore un sabbatique, parce que je fais ça assez souvent. C'est-à-dire que je me suis pris une année sans concert, où je suis tombé sur les mazurkas de Chmielewski que je connaissais déjà, mais que je n'ai jamais vraiment beaucoup joué. Et je suis devenu dingue de cette musique. Et donc, il fallait que je joue ces mazurkas. Et c'est là que l'idée est venue. Ah ben, tiens, il y a Janáček. Et puis après, c'est comme ça que ce disque, c'est un petit peu, c'est décidé. Voilà.
Voilà, donc c'est un album qui met en avant trois compositeurs d'Europe de l'Est, relativement contemporains, relativement voisins, mais au langage, chacun très différent.
Oui, alors le plus complexe, le plus ambivalent, c'est Chmielewski, parce qu'il est passé par plein de phases différentes. Et là, dans sa dernière, troisième période, vers la fin de sa vie, il se tourne justement vers la musique populaire. Ce que Bartok a fait très naturellement depuis le début. Oui. Disons, voilà. Donc, chez Chmielewski, c'était tout un parcours pour arriver là. Oui. Et j'ai envie presque de dire que ce n'est pas vraiment sa nature. Il fait un petit peu quelque chose contre sa nature. C'est ça que je trouve tellement fascinant, d'ailleurs, et beau.
Mais c'est vrai que Chmielewski a un langage très singulier, même inclassable, assez étrange, assez complexe. Est-ce que c'est un langage avec lequel vous avez eu une relation, alors j'irais pas jusqu'à dire évidente, mais naturelle, ou est-ce qu'il a fallu le comprendre chez Chmielewski?
Non, Chmielewski, ça n'a pas été évident du tout pour moi. J'avais même une forme de répulsion envers cette musique. Je ne comprenais rien à ce langage. Et ça m'a vraiment pris du temps. Et un jour, j'ai programmé les métopes. C'est un cycle pour piano, d'ailleurs, que j'ai enregistré il y a pas mal d'années. Sans vraiment comprendre cette œuvre, mais il y avait comme un instinct, quelque chose me disait, il faut passer par ça. C'est à ce point incompréhensible, c'est à ce point étrange que j'en suis curieux. Est-ce que je vais trouver une clé pour ça? Et ça a été une révélation. Ça m'a vraiment presque sauvé à l'époque. C'est-à-dire, c'était comme une découverte d'un nouveau continent, un petit peu. Vous voyez, c'est-à-dire, je me suis lancé dans une mer où je ne voyais pas l'horizon, et tout d'un coup, un nouveau continent est apparu. Je me souviens très bien de ce que je ressentais à l'époque. C'était très puissant, vraiment.
Et ça l'est toujours aujourd'hui, c'est différent?
Non, je suis vraiment amoureux de Chmielewski, vraiment. Ouais. Je ne me lasse pas du tout.
Ces mazurkas, elles nous renvoient à Chopin. Chopin, il est important dans l'héritage de Chmielewski, non?
Oui et non, j'ai envie de dire. Il a écrit c'était un grand intellectuel, c'était un type qui écrivait merveilleusement. Il a fait plusieurs articles sur Chopin, sur la musique de Chopin, qui sont fantastiques d'intelligence, de compréhension vraiment de cette musique. Vous savez, à l'époque en Pologne, surtout après 1918, quand la Pologne a regagné son indépendance, il y avait toute une façon d'appréhender Chopin qui était très superficielle, et je veux dire, tout ce côté patriotique et assez simpliste d'aborder cette musique. D'ailleurs, c'est toujours le péché en Pologne, je trouve. C'est quand on est polonais et qu'on vit en Pologne, jouer Chopin, c'est effrayant. On vous passe ça à la radio partout, c'est pas possible. Enfin, pour moi. Et lui, c'était un des seuls qui percevait le génie de cette musique, la complexité de cette musique. Et il essayait d'expliquer à quel point cette musique est géniale et complexe.
Et Chmielewski, dans ses mazurkas, comme vous le disiez tout à l'heure, Piotr Andrzejewski, il fait référence à la nature. Il fait référence à la nature polonaise, aux montagnes.
La nature, je ne sais pas si c'est la nature, c'est plutôt le peuple des montagnards.
Ouais.
C'est une région en Pologne assez particulière, et c'est un peuple qui a toujours eu son folklore, qui a eu sa façon de s'habiller, son accent, sa façon de parler, et aussi, oui, ça, une musique folklorique bien propre à eux, qui est différente du reste de la Pologne. Là, par exemple, Chopin n'a pas du tout eu affaire à ça. Oui, et Szymanowski, ça l'a fasciné, cette d'archaïsme de ce peuple des montagnes. Oui, leur côté brut, leur côté rebelle, justement. C'est comme souvent les montagnards, c'est des gens isolés dans leur vallée, qui sont à part. C'est quand je dis que c'est aussi un petit peu contre sa nature, c'était un homme extrêmement raffiné et intelligent, vivant de beauté, de sublimation, et justement voilà, et là tout d'un coup il se confronte à ce côté tellement brut qui visiblement justement le fascine parce qu'il est tellement différent de lui, hein. Souvent c'est les contraires qui nous fascinent.
Une mazurka de Karol Szymanowski, un nouvel extrait de cet album de Piotr Anderszewski que l'on découvre ce soir sur Radio Classique. En compagnie de Piotr Anderszewski, ce sont trois cycles de petites pièces, de miniatures. Jouer des miniatures, c'est particulier. C'est créer un climat en quelques minutes, voire quelques secondes, passer à un autre. Quel plaisir et quelle difficulté cela vous procure?
Alors sur ce disque, quand vous dites miniature, il y a des bagatelles de Bartók, surtout vers la fin, que je dirais que c'est plus tellement des miniatures. Des mazurkas numéro 10, oui, en effet, ça comparé à une grande sonate, c'est oui. Des miniatures. Oui, peut-être je devrais pas m'avancer sur argumenter
des
là-dessus.
Des pièces relativement brèves.
Relativement brèves, oui. Alors, quel est le challenge? En fait, j'ai toujours aimé la miniature. J'ai toujours aimé la miniature. Exprimer un sentiment, exprimer un monde avec quelques notes, avec un geste. Bon, le grand miniaturiste pour moi de génie, c'est Schumann, où en deux petites lignes, tout est dit. Hein. Ça demande certainement une rigueur, une précision. On ne peut pas être dans le flou. On ne peut pas se dire, ah ben j'ai un mouvement de sonate de 20 minutes, bon, on va oui, ce qui compte, c'est le comment dire, le grand geste, la construction. Je le pense que quand je travaille une œuvre, que ça soit une miniature ou un grand mouvement, je dois être en mesure d'entendre le dernier accord dès que je commence l'œuvre. Sinon, je n'y arrive pas. Mais disons, dans un grand mouvement de sonate, il peut y avoir des moments où on se perd un peu. Il peut y avoir des moments où on n'est pas totalement sûr où on va et on se rattrape après. Tandis que dans une miniature, chaque note doit être là. Chaque note doit être là. Il ne peut pas avoir le moindre moment de déconcentration, de doute ou de flou. Ah, on va par là, on va par là. Non, ça doit être très, très clair. Et même le doute, s'il est voulu, il doit être clair. Le doute aussi doit être clair. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais en même temps, ces pièces, elles n'ont pas de titre. Elles ont des indications de tempo. Du coup, leur donner leur caractère particulier, comment est-ce que cela se passe? On l'invente?
Oui, ça, c'est un mélange de facteurs. C'est l'intuition. Bon, il y a quand même des indications. Il y a le tempo, oui.
Il y en a une seule. Elle est morte.
Une seule et Mamie qui danse, ensuite.
Oui, voilà, les deux dernières bagatelles.
Oui. Bartók reste assez précis dans sa notation. Donc quand même, le tempo, le caractère, c'est quand même indiqué. Après, je ne sais pas, c'est un mélange d'intuition, mais comme dans toute interprétation, je pense, et aussi de culture, je veux dire, de culture et de goût. C'est-à-dire, on ne peut pas, à mon avis, se lancer dans une mazurka de Szymanowski sans connaître Szymanowski généralement, sans savoir ce que c'est qu'une mazurka, sans avoir joué ou entendu des mazurkas de Chopin, pour quand même se mettre en relation par rapport à ça. Donc c'est, et ensuite, bien sûr, une intuition. Donc c'est tout un mélange hein, de Vous me posez une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je souhaite que j'ai une recette pour ça, mais je n'en ai malheureusement pas.
Ouais. Peu importe la recette, c'est le résultat qui compte.
Oui.
Vous serez en récital, Piotr Andrzejewski, le 26 février à la Philharmonie de Paris. Donc vous jouerez des mazurkas de Szymanowski. Vous les associerez à Chopin et à Bach, la première partita de Bach. La partita, c'est aussi une suite de danse.
Absolument.
Donc c'est un programme placé sous le signe de la danse.
Oui, en gros, absolument. Mais vous savez, de plus en plus, je me rends compte que combien de musique est influencée par la danse, vraiment, même si ce n'est pas des danses, même si c'est une sonate de Beethoven, même si il y a bien évidemment pas toujours, mais souvent il y a un élément de danse qui est là, qui est même souterrain, mais qui est quand même là.
Voilà, la danse au programme de votre récital le 26 février à la Philharmonie de Paris. On va se quitter, Piotr Andrzejewski, avec quelques-unes de ces bagatelles de Béla Bartók. La bagatelle qui puise, ces pièces qui puisent à la fois dans la tradition, mais qui témoignent d'un langage d'une grande modernité, qui nous renvoie aussi à Beethoven, en tout cas la bagatelle beethovenienne. Est-ce qu'il y a un lien entre la bagatelle de Bartók et celle de Beethoven?
Alors, plus tard dans la saison, je vais d'ailleurs jouer des bagatelles de Beethoven avec les bagatelles de Bartók. Oui, je dirais peut-être surtout les bagatelles opus 33 de Beethoven. Est-ce qu'il y a un lien? Ben, je dirais peut-être pas tellement dans l'idée de la bagatelle, mais Beethoven et Bartók, la musique de Beethoven et de Bartók, en règle générale, je trouve qu'il y a un lien. Il y a une quelque chose de très construit et motivique, et peut-être encore une fois, ce côté, ça s'exprime très différemment chez Beethoven, mais quand même un côté brut, et encore une fois, rebelle, oui. Hein, qui est tellement présent chez Beethoven. Mais je dirais la construction, oui. L'architecture, qui, dans le cas des deux compositeurs, est primordiale. Mais par exemple, pour revenir à Szymanowski, il y a une mazurka qui m'interpelle beaucoup, c'est la numéro 5. Pour moi, c'est une construction beethovenienne, complètement. Là, on peut mettre la danse à côté, mais en fait, la façon de travailler le motif, comme on construit une œuvre à partir d'un motif très simple, et ce motif, c'est l'axe de l'œuvre, et ce motif apparaît tout le long de l'œuvre, mais dans un contexte différent, dans un caractère différent, dans une dynamique différente. Chaque fois, ce motif, restant le même motif, exprime un sentiment complètement différent. Et cette cinquième mazurka, quel point Szymanowski réussit avec ce motif à exprimer en ces quelques minutes tellement de choses, moi ça me fait tout de suite ça m'évoque Beethoven tout de suite. Oui,
ouais. Voilà, mazurka que vous jouerez donc à la Philharmonie de Paris, et Beethoven qui est au programme d'autres concerts à venir pour vous.
Plus tard.
On se quitte donc avec quelques-unes de ces bagatelles de Béla Bartók. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Piotr Andershevsky.
Merci.
Quelques bagatelles de Béla Bartók par Piotr Andershevsky. Deux nouveaux extraits de ce superbe album qui vient de paraître chez Warner. Piotr Andershevsky sera donc en récital le 26 février à la Philharmonie de Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous ferons connaissance avec la jeune soprano Laurane Oliva, révélée l'automne dernier lorsqu'elle a remporté successivement la Paris Opera Competition et le concours Voix Nouvelle. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.